Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et Indonésie. L'heure suivante, vous allez écouter magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, voici les nouvelles d'aujourd'hui. Wiranto et Sanana se réuniront pour discuter de la frontière indonésienne timoraise. BPOM est prêt à construire un poste POM sur deux frontières malaisiennes à Kaltara. Les hommes d'affaires de palmiers à l'huile espèrent la percée dans les négociations commerciales avec l'Inde. Chers auditeurs, voici les nouvelles complètes. Wiranto et Sanana se réuniront pour discuter de la frontière indonésienne timoraise. Le ministre coordinateur des politiques du droit et de la sécurité, Wiranto, a déclaré qu'il rencontrerait le ministre de la planification et des investissements stratégiques de la République démocratique du Timor oriental, Sanana Gusmao, afin de finaliser les discussions sur les frontières indonésiennes et timoraises. Cela a été dit par Wiranto au bureau du ministère de la Politique et de la Sécurité à Jakarta jeudi. Selon Wiranto, la réunion sera également assistée par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui achèverait la discussion concernant la consultation des hauts fonctionnaires. Les SOC étaient en accord entre le ministre coordinateur des Affaires politiques, juridique et de sécurité Wiranto, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et Sanana Gusmao à Jakarta en 2017. Le SOC a le devoir de discuter techniquement de la solution des conflits frontières. Wiranto a déclaré qu'il y avait le progrès pour résoudre les questions frontalières. Il souhaite qu'il y ait des progrès dans la résolution des deux points terrestres lors de la visite de Sanana Gusmao le lundi 22 juillet. Son côté continuera à travailler pour positionner la frontière maritime. BPOM est prêt à construire un poste POM sur deux frontières malaisiennes à Kaltara. La présidente de l'Agence de surveillance des aliments et drogues, BPOM, Penny K. Lukito, est prête à mettre en place un poste de contrôle des drogues et des aliments aux deux postes frontaliers du Kalimantan du Nord en 2019. Penny a déclaré jeudi à la presse dans le nord de Kalimantan que les deux postes transfrontalières, dont la construction a été convenue, était situé dans la région de Long Midang, dans le district de Krayang et à Seipanchang, dans l'île sabbatique, dans la région de Nunukan. La construction des deux postes transfrontalières avec la Malaisie est le programme du gouvernement central énuméré dans l'instruction présidentielle numéro 1 de 2019 concernant l'accélération du développement de 11 postes frontaliers nationaux intégrés et d'installations de soutien dans la zone frontalière. Penny a déclaré que l'Agence de surveillance des aliments et des drogues BPOM serait présent avec d'autres agences, telles que les douanes pour renforcer la surveillance des médicaments et des aliments à la frontière afin que les produits entrant dans le pays soient de bonne qualité et sans danger pour la consommation. Les hommes d'affaires de palmiers à l'huile espèrent la percée dans les négociations commerciales avec l'Inde. L'Association des entrepreneurs indonésiens des palmiers à l'huile, GAPKI, a déclaré que les exportations indonésiennes d'huile de palme brute ont augmenté de 18% en mai 2019 par rapport au mai précédent. Le président de GAPKI de la branche d'Aceh, Sabri Bacha, a déclaré mercredi à Banda Aceh que certains des principaux pays de destination des exportations ont mis en œuvre des réglementations incluses dans la catégorie des obstacles au commerce. Par exemple, l'Inde, qui augmente au maximum les droits de l'importation sur l'huile de palme. Sabri espère que le gouvernement indonésien pourra immédiatement accélérer la coopération économique avec l'Inde en vue de la mise en œuvre du même tarif d'importation, afin que l'Indonésie rivalise pour animer le marché indien. Ridwan Kamil a remporté le prix OpenGov pour le programme du village numérique. Le gouverneur de Java occidental, M. Ridwan Kamil, a reçu des reconnaissances de l'excellence 2019 pour la catégorie de l'initiative du village numérique de la part de l'organisation OpenGov. Le prix a été décerné jeudi à Jakarta lors du Forum de leadership OpenGov 2019. OpenGov est une organisation internationale qui fournit une évaluation de la performance des gouvernements, en particulier en ce qui concerne l'innovation réalisée par des gouvernements de diverses régions du monde. Ridwan Kamil a reçu ce prix en raison de ses efforts pour développer des villages numériques dans la province de Java occidental. Selon Emile, la révolution numérique doit être menée de manière inclusive en impliquant divers secteurs qui n'ont pas encore été touchés par l'écosystème numérique, y compris en fournissant des installations de Wi-Fi gratuites à divers villages, comme a été fait par le gouvernement provincial de Java Ouest. À l'heure actuelle, les villages de l'Ouest de Java ont mis en œuvre des systèmes numériques dans diverses activités économiques et la coordination entre le gouvernement et ses citoyens. L'objectif cette année, il y aura les 600 villages de Java occidental dotés d'un accès Wi-Fi gratuit. Le ministre du Tourisme, Lelak Toba, reçoit des fonds d'infrastructure de 1,6 trillion roupies. Le ministère du Tourisme est optimiste que les visites touristiques sur le lac Toba peuvent atteindre l'objectif d'un million de personnes car le gouvernement déboursera le budget pour l'achèvement du développement des infrastructures dans cette région d'environ 1,6 trillion roupies. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a déclaré jeudi à Medan que le problème dans la région du lac Toba ainsi que dans d'autres zones touristiques en Indonésie était le manque d'accès, de sorte que le gouvernement doit renforcer ses infrastructures. Il a confirmé que les fonds d'environ 1,6 trillion roupies faisaient partie d'un budget total de 6,4 trillion roupies pour achever le développement des infrastructures dans quatre destinations touristiques de très haute priorité. Les quatre destinations touristiques prioritaires sont le lac Toba, Mandalika, Borobudur et Labuan Bajo. Les exportations agricoles du Kalimantan occidental atteignent des centaines de milliards par mois. Quarantaine végétale de la salle de quarantaine de classe 1 de Pontianak a indiqué que la valeur des exportations de produits agricoles dans le Kalimantan occidental atteignait 250 à 400 milliards de roupies par mois. Astuti Ferry, le chef de la section quarantaine végétale de la salle de quarantaine de classe 1 de Pontianak, lors de l'accélération des exportations agricoles du Kalimantan occidental à Pontianak, a déclaré jeudi que les exportations des produits agricoles du Kalimantan occidental étaient assez élevées en termes de produits et de valeur. Ferry Astuti a déclaré que l'accélération des exportations de produits agricoles était également une forme de soutien de la salle de quarantaine de classe 1 de Pontianak pour le développement de l'agriculture, en particulier de ses exportations. Chers auditeurs, c'était les nouvelles.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, la Turquie achète les missiles russes comme une forme de défense indépendante. La décision de la Turquie d'acheter des missiles S-400 fabriqués par la Russie a déplu aux États-Unis et aux membres de l'OTAN. Les États-Unis ont annoncé qu'ils mettaient fin à la Turquie d'un programme d'achat d'appareils F-35 fabriqués par les États-Unis. D'Ankara, il a été signalé qu'une partie du système de missiles S-400 acheté par la Turquie avait commencé à arriver à Ankara la semaine dernière. Le président turc Recep Erdogan à Ankara a déclaré que le système de défense anti-aérien S-400 entrerait en activité en 2020. La décision du président turc Recep Erdogan d'acheter le système de défense anti-aérien russe S-400 a mis en colère l'OTAN et les États-Unis. La Turquie est le seul membre de l'OTAN à utiliser pleinement le système de défense terrestre contre-air de fabrication russe. Bien que les relations de la Turquie avec l'OTAN aient commencé à se durcir depuis le coup d'État manqué de l'année dernière, la décision d'Erdogan d'utiliser la technologie de défense russe pourrait aggraver ces relations. Pour l'OTAN et les États-Unis, la décision d'Erdogan a nui à l'engagement et à la position de la Turquie en tant qu'allié de l'OTAN depuis 65 ans. La raison pour laquelle la Turquie a finalement détourné l'achat de son système de défense vers la Russie tient à la lenteur des États-Unis à proposer un système de défense anti-missile. Les chefs militaires des États-Unis ont estimé que le système de défense aérienne russe S-400 n'était pas adapté ni compatible avec les systèmes de défense de l'OTAN. En outre, l'armée américaine craint que le système ait un impact sur l'utilisation des avions américains F-35. Ils craignent que les techniciens russes qui travailleront en Turquie pour accompagner l'utilisation de S-400 volent le secret du système F-35. Jusqu'à présent, la Turquie n'a pas répondu à la menace des États-Unis qui mettra fin à la Turquie du programme d'achat d'avions F-35. La suppression de la Turquie du programme F-35 aura certainement un impact sur la Turquie. En plus de commander 100 unités de F-35, la Turquie a également investi dans ce programme car les sociétés turques avaient produit près de 940 000 pièces de rechange de F-35. La décision de M. Erdogan d'acheter le S-400 de la Russie avait certainement passé par un examen attentif. L'achat d'équipements de missiles sol-air S-400 ne concerne pas seulement l'argent et les investissements, mais aussi la détermination de la Turquie à développer une défense air-sol plus indépendante. Erdogan a choisi une alternative pour resserrer ses relations avec la Russie en ligne avec les relations tendues entre la Turquie avec l'OTAN et les États-Unis. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 19 juillet. Le 19 juillet 1949, la première conférence inter-indonésienne. La conférence inter-indonésienne est une conférence entre l'État de la République d'Indonésie et les pays ou États fantoches qui ont conquis les Pays-Bas ou BFO, Bijen Koms pour Federal Oversla. La conférence inter-indonésienne s'est tenue à Yogyakarta du 19 au 22 juillet 1949 sous la dirigeance du vice-président Dr. Mohamed Hatta. Grâce à la sympathie des pays du BFO, les dirigeants de la République d'Indonésie pourraient être libérés et le BFO contribuerait également à la tenue de la conférence inter-indonésienne. C'est la raison de la tenue de la conférence inter-indonésienne. Sukarno a qualifié cette conférence de nouvelle trace pour orienter la lutte de l'Indonésie. Le 19 juillet 1979, le Front de Libération Nationale Sandiniste, FSLN, a renversé le gouvernement d'Anastasio Somoza Garcia. Le 19 juillet 1979, le Front de Libération Nationale Sandiniste, FSLN, renverse le gouvernement d'Anastasio Somoza Garcia et prend le pouvoir en apportant pour la première fois au pouvoir l'ancien combattant de la guérilla, Daniel Ortega. Le parti mène une révolution populaire en 1979 qui renversa la dynastie politique de Somoza au Nicaragua. Les Sandinistes ont exercé le pouvoir pendant environ 12 ans, de 1979 à 1990. Ils ont procédé aux élections démocratiques et aux constitutions nationales, en plus d'autres réformes populistes. Le FSLN est actuellement l'un des deux principaux partis au Nicaragua, représentant environ 40% des électeurs. Le 19 juillet 1985, Suman Jaya, l'un des réalisateurs indonésiens, est décédé. Suman Jaya est l'un des auteurs et réalisateurs indonésiens célèbres. Suman Jaya avait étudié de 1959 à 1964 à l'Institut de cinématographie de All Union State à Moscou, Russie. Environ 16 films sont nés au cours de ses 14 années de carrière. Suman Jaya a presque toujours remporté la Coupe Citra sous toutes ses formes au Festival de films indonésien. Les films nés de Suman Jaya sont inhérents à la réalité sociale de la société. Parmi eux figurent Sidul Anak Betawi et Si Mamat en 1973, Sidul Anak Modern en 1976, Kabut Sutra Ungu en 1979, Kartini 1982, Budak Nafsu en 1983 et Krikil Krikil Tajam en 1984. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap harapanku ingin terbang jauh biar awan pun gelisah daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat thank you.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Amour pour toujours » chantée par The Cinnamon. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant Modernisie.
Ce que j'aime l'entendre, c'est maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement accepte de réviser le plan de développement du bloc Masela. Une société japonaise, Inpex Corporation, par l'intermédiaire de sa filiale Inpex Masela, a reçu l'approbation du gouvernement indonésien concernant un plan révisé pour le développement de chambres de gaz éternel dans le bloc Masela, dans la province des Moluques. Le gouvernement a approuvé une allocation supplémentaire de 7 ans et une prolongation d'un contrat de coopération d'une durée de 20 ans qui expirera en 2028 et se prolongera jusqu'au 15 novembre 2055. L'accord du gouvernement indonésien a été donné par le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Ignatius Jonan, à INPEX en tant qu'opérateur et représentant des partenaires de co-entreprise INPEX Masela et Shell Upstream Overseas. Ce processus a également été témoigné directement du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo. Lors d'une conférence de presse à Jakarta mercredi dernier, le président et le chef de la direction d'INPEX, Takayuki Ueda, a déclaré que l'approbation de la révision du plan de développement était une étape importante pour le projet de gaz naturel liquéfié GNL Abadi. Takayuki a déclaré que cet accord suscitait de l'espoir et permettait aux chambres gazières d'Abadi de fonctionner de manière stable. Ce projet sera la principale source d'approvisionnement de l'Indonésie en GNL pour les régions asiatiques et japonaises à long terme. Takayuki a déclaré que ce projet contribuait de manière significative au renforcement du développement des capacités nationales de l'Indonésie, en particulier dans l'est du pays. Selon lui, le champ de gaz Abadi a une très bonne productivité de réservoir et constitue même l'une des plus grandes sources de gaz au monde. Le champ de gaz Abadi a une capacité de production qui atteint 10,5 millions de tonnes de gaz naturel par an. En outre, le projet du bloc Masela absorbera 73 000 travailleurs par an. Pendant ce temps, le chef de l'unité spéciale du pétrole et du gaz, Dwi Sucipto, a déclaré que le président Joko Widodo avait salué le travail acharné des deux côtés, de sorte que les négociations pourraient être résolues. Cet investissement de grande valeur, selon le président, est très significatif pour l'Indonésie. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la deuxième chanson intitulée « Toi et moi » chantée par Baim. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutez maintenant magazine culturel.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant la danse de bienvenue. La voix de Tifa, un instrument de musique typiquement papou, accompagnant chaque mouvement des danseurs de la danse de bienvenue. La danse de bienvenue est la sagesse et la culture noble du peuple papou. Pour le peuple papou, cette danse est interprétée comme une forme de respect et indique également que l'invité a été bien reçu, ainsi qu'une expression de gratitude et de bonheur pour le peuple papou en accueillant ses invités. La danse de bienvenue est dansée par des danseurs masculins et féminins pour accueillir des invités d'honneur ou des personnalités importantes. La danse de bienvenue est exécutée dans une foule. Initialement, les danseuses formaient un cercle et chantaient avec entrain. Les danseuses prennent les invités d'honneur, puis portent un collier et un couvre-chef en guise de respect. Les invités seront invités à danser ensemble jusqu'à la fin. C'est un symbole que les invités ont été très bien reçus par le peuple papou et en font désormais partie. Les danseurs se sont ensuite joints à la danse lorsque la danse était à mi-parcours. Ils sont allés de temps en temps en levant des lances, des flèches et d'autres armes. Plus la danse est longue, plus le cercle qu'ils forment est grand, plus les chansons qu'ils apportent sont excitées. Les chansons chantées dans la danse de bienvenue sont généralement des expressions de gratitude et des histoires sur tout ce qui est positif à propos de la vie. Ils croient que ces paroles positives rendront les invités plus à l'aise lors de leur visite et inversement, ils donneront une valeur positive à l'hôte. Dans la danse de bienvenue, les danseurs portent des costumes d'écorce d'arbre et de racines de plantes. Les ingrédients naturels sont traités de manière à pouvoir fermer le corps. Les danseurs portent des couvre-chefs, des colliers et des bracelets. Les peintures ethniques colorent également le corps. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Balikkan melulu, diamlah. bibir mega-megamu ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku.
Chers amis, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutez maintenant l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Salutaire, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre des étudiants de l'Université d'Indonésie créent des centres intelligents pour la sécurité des vols. Soyez toujours avec nous, la voix d'Indonésie sur www.voice.id. Trois étudiants de la faculté de génie de l'Université d'Indonésie, FTUI, ont conçu les ceintures intelligentes, un nouvel outil révolutionnaire qui peut être intégré à la ceinture de sécurité d'un avion pour améliorer la sécurité des passagers aériens. Les ceintures intelligentes utilisent la technologie de l'Internet des objets, ou IoT, capable d'enregistrer la présence et l'identité des passagers et d'autres paramètres, afin de fournir l'image sur la position des passagers qui ne peuvent pas se sauver à l'équipe d'évacuation. Les ceintures intelligentes est en œuvre de trois étudiants de FTUI tels que Harrison Alim, Ilya Azani et Nicolas sur la direction du maître de conférence de génie mécanique du département de FTUI Muhammad Aditya. Muhammad Aditya expliquait que la fabrication de cet outil était en fait motivée par divers accidents d'avion en Indonésie qui ont fait de nombreuses victimes. Ce problème est l'un des défis que l'équipe souhaite trouver une solution. Les ceintures intelligentes ont pour but d'aider les secouristes a procédé à l'évacuation des passagers dans un avion victime d'accident. Le président de l'équipe de conception, Harrison, a espéré que les ceintures intelligentes pourraient à l'avenir être disponibles dans tous les sièges d'avion. Les ceintures intelligentes seront équipées de divers capteurs, si bien que le système s'allume et détecte l'utilisation de la ceinture de sécurité, la température, la pression d'humidité. De plus, si le passager est assis sur son siège, le système de siège sera actif et détectera les paramètres de présence des passagers, de la position de la table de salle à manger et des conditions d'assise du passager chaque les 30 secondes. Toutes les données enregistrées sur les ceintures intelligentes sont stockées sur un serveur qui peut être utilisé par les officiels en cas d'urgence, par exemple après un atterrissage d'urgence ou lorsqu'il reste encore des passagers qui ne sont pas encore descendus et qui ne peuvent pas retirer leur ceinture de sécurité. D'autre part, les données peuvent également être utiles dans des circonstances normales, y compris des informations sur la température, l'humidité et la pression en tant que matériel d'analyse de confort et de comportement des passagers à différentes phases de vol en tant que moyen de mise en œuvre de la réglementation de vol. Les trois étudiants étudient actuellement les ceintures intelligentes et les présenteront au jury du programme de créativité des étudiants de l'Université d'Indonésie 2019. Chers auditeurs, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir et en pour titre, des étudiants de l'Université d'Indonésie créent des ceintures intelligentes pour la sécurité des vols. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs et auditrices, c'était une chanson intitulée « Merci » chantée par Calvin Jeremy. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, aujourd'hui, je vous donne une chanson de la région de Sumatra de l'Ouest dont le titre est La Laruik Sanjo. La chanson créée par Hasbun Majid a été popularisée par la chanteuse de Sumatra de l'Ouest, Eli Kasim, en version pop. Non seulement la technologie évolue, mais les chansons régionales s'adaptent aussi à l'époque de plus en plus moderne, transformant les goûts musicaux des gens. La Larwik Sanjo, ce qui signifie « il est tard le soir », rappelle aux gens de rentrer chez eux parce que c'est fin d'après-midi et demain on travaille encore. Bon, chers auditeurs, voici la chanson « La Larwik Sanjo » qui a été réarrangée et chantée par Kristiawan Nelwan.
Oh,
Voice of Indonesia.
C'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.